Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Big Five. Un Big Five consacré cette semaine à l'OM de Jean-Louis Gasset. À quelques jours du classique contre le PSG, on va faire le point sur cette OM nouvelle version qui reste sur deux défaites mais qui va mieux depuis l'arrivée de Gasset il y a un mois. Le technicien français a remonté le moral de ses troupes, mais pas seulement. Il a su s'adapter tactiquement à son effectif. Beaucoup de polyvalence sur le terrain avec par exemple les repositionnements d'Iliman Ndiaye et de Chancel Mbemba. Mais Marseille fait face à une avalanche de blessures avant d'affronter Paris. Alors dans quel état les hommes de Jean-Louis Gasset vont-ils se présenter au Vélodrome le 31 mars? Que peuvent-ils espérer de ce match face aux leaders parisiens? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec deux des reporters en charge de l'OM. Bonjour Mélisande Gomez.
Salut, bonjour à tous.
Et bonjour Baptiste Chaumier.
Bonjour à tous et à toutes.
Voilà, vous avez le casting et le menu maintenant. On peut commencer. L'Olympique de Marseille au cœur d'une saison surréaliste, comme vous l'avez écrit tous les deux à plusieurs reprises. L'OM 7e après 26 journées, 4 entraîneurs différents cette saison. Marcelino, Jacques Abbardonado, Gennaro Gattuso et donc Jean-Louis Gasset. Avec lui, l'OM a enchaîné 5 victoires d'affilée, une première cette saison, avant de chuter contre Villarreal et contre Rennes. On y reviendra. Mais Lisande, comment tu ressens l'atmosphère générale au sein du club depuis un mois ?
Il y a eu un vrai mieux, effectivement, qui s'est vu dans les résultats, mais pas seulement, aussi dans l'ambiance au quotidien. C'est vrai qu'il est arrivé dans un état... le vestiaire était dans un état assez déplorable après la défaite à Brest. Et puis, il a pris le temps, il a su trouver les mots. C'est vrai qu'il a cette personnalité assez chaleureuse, assez ronde. Il a l'expérience pour lui, il avait... aussi le fait d'arriver sans avoir l'ambition de rester l'entraîneur de l'OM pour les 5 prochaines saisons avec une volonté de plan de carrière ou avec des grosses ambitions comme ça. Lui, c'était vraiment la mission pour les derniers mois de la saison. Donc, il l'a abordé différemment. Les joueurs aussi qui se sont sentis un petit peu, je pense, responsables du départ de Gattuso qu'ils aimaient bien, mais avec qui ils n'ont pas su trouver la bonne entente tactique. Et donc, tout ça a fait qu'il y a eu un rebond visible et une meilleure ambiance. Après, c'est vrai que ça a coincé sur les deux derniers matchs. Donc, la suite, ça reste extrêmement fragile. Il y a eu un mieux, mais ça reste extrêmement fragile parce que, comme vous l'avez dit, c'est une saison compliquée depuis le départ, qui est longue, qui est éprouvante pour les corps. On a vu qu'il y a beaucoup de blessés, pour les têtes aussi. Et du coup, ce seront les prochains résultats qui vont décider de l'ambiance, comme souvent dans un club de foot.
Baptiste, sur quoi insister Jean-Louis Gasset particulièrement pour redonner confiance à ses joueurs?
Je suis assez d'accord avec Mélisande. En fait, Jean-Louis Gasset, finalement, à l'OM actuellement, c'est le seul qui n'a rien à perdre. Lui, il sait qu'il est là que pour 3 mois, que ça va se terminer. Les joueurs, eux, ils ont des contrats à renégocier ou des nouvelles destinations à peaufiner. Les dirigeants, c'est l'incertitude pour eux. Lui Gasset, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Ce qui fait qu'il a pu, un peu leur rentrer dedans, hein, comme cette anecdote qu'on avait déjà racontée sur la une de l'équipe quand il arrive, où il y avait donc les têtes de tous les entraîneurs de l'OM depuis le début de la saison et où il leur montre la une en leur disant vous en voulez un quatrième. Il les a un peu secoués, ça les a réveillés pour certains. Je pense que il a joué un peu sur l'ego, sur l'orgueil avec certains, il a été un peu plus câlin avec d'autres et c'est ce qui a aussi permis, en tout cas dans un premier temps, parce qu'il n'a pas fait que ça, mais de relancer un peu la machine.
Est-ce que vous attendiez un tel rebond aussi rapide des Marseillais ?
Il faut aussi dire que le calendrier était assez favorable, hein, en Ligue 1 notamment. Le match retour contre le Shakhtar, c'était pas si mal embarqué après le match aller. Et puis le calendrier en Ligue 1, Montpellier, Clermont, ça a permis d'avoir des adversaires qui étaient vraiment à la portée sur le papier de l'OM. Et que donc, s'ils y mettaient les ingrédients, l'intensité, la discipline, il n'y avait pas de raison que ça se passe si mal. Après, c'est vrai qu'il a trouvé quand même d'autres ressorts, surtout dans l'animation offensive, ce qui était vraiment terrible en fin de parcours de Gennaro Gattuso. Là, c'est une équipe où il y a davantage de mouvement, il y a des joueurs davantage en confiance. On en reparlera, je pense, de Iliman Ndiaye ou des joueurs qui ont été repositionnés. Il avait trouvé quand même Gasset cette attaque à 3 avec un central et 2 attaquants plus excentrés qui fonctionnait. Et donc ça, c'est vrai qu'on a vu davantage d'animation dans le camp adverse qu'avant. mais c'était pas impossible de rebondir face à ces adversaires-là. Ouais.
Mais comme tu dis, Mélisande, il a aussi profité de ce calendrier-là. Et finalement, là, on va voir vraiment ce qu'il a dans le ventre, lui, ce que son équipe a dans le ventre dans les semaines qui arrivent, qui vont être terribles. Hein, parce que là, c'est les sommets, c'est Paris, c'est Lille, c'est Benfica deux fois, ça va être Lens aussi, ça va être Nice. Donc, il faut quand même rappeler que l'OM, cette saison, je crois, n'a pas gagné une seule fois contre un concurrent direct en championnat. Donc, c'est aussi là-dessus qu'ils vont être attendus. S'ils veulent espérer accrocher une place en Coupe d'Europe, de toute manière, il va falloir battre des concurrents directs.
Ouais, on va parler évidemment de ce premier gros test hein, qui arrive face au PSG. On l'a compris, hein, mentalement, ça va mieux. Physiquement, en revanche, l'OM n'est pas au top de sa forme. Hein, infirmerie bien remplie. Klaus, Meite, Sarr, Murillo, Onana et Rongier out pour le classique. Et Garcia, Balerdi, Gueye et Gigot incertains, mais pas encore forfaits. Bon, ça fait beaucoup. Dans quelle mesure les changements d'entraîneur cette saison ont affecté la préparation physique des Marseillais ?
Bah, dès le départ, la préparation, tous les entraîneurs vous le diront et les joueurs, il faut une bonne préparation estivale pour pouvoir espérer faire une saison pleine sans trop de risques de blessures. Et c'est vrai que la préparation estivale de Marcelino, elle a été a posteriori un petit peu critiquée. Ça avait étonné les joueurs par le manque d'intensité qu'ils y avaient mis, par le manque de gros travail foncier, mais qui, je pense, correspondait au travail de Marcelino et à sa façon de travailler. Et je ne pense pas qu'on puisse dire que Marcelino est un perdreau de l'année. Il sait très bien préparer ses équipes, mais sans doute il les prépare pour son foot à lui, avec son staff à lui, avec son rythme à lui. Et que quand il y a des changements aussitôt dans la saison, eh bien, les joueurs se retrouvent un petit peu à devoir rattraper le temps perdu. Ils sont passés à une autre culture avec Gattuso qu'à la tradition italienne d'une préparation physique plus lourde, avec un foncier plus développé, qu'ils ont fait plus tard du coup dans la saison. Du coup, ça, c'est vrai que c'est difficile de rattraper ces retards à l'allumage-là dans une saison où les matchs se sont enchaînés à ce rythme-là, puisqu'ils jouent tout le temps. Ajouter à ça un effectif qui est assez court, qui a été privé pendant toute la CAN de beaucoup de joueurs, et donc ils ont tout le temps tiré sur les mêmes, en fait. C'est beaucoup les mêmes joueurs qui ont joué toujours, et bien cela, naturellement, il y a un moment donné où ça commence à tirer un petit peu sur les cuisses, sur les mollets, voilà, sur toutes les chaînes musculaires qui sont tout le temps sollicitées, parce qu'il y a de la fatigue, et il y a aussi la fatigue mentale dont on parlait tout à l'heure, et on sait qu'elle est toujours liée à un risque de blessure plus élevé quand vous êtes mentalement un peu à bout, quoi.
Et maintenant, comment est-ce que Gasset et son staff essayent de limiter, voire de réparer les dégâts ?
Ils sont obligés de réagir dans l'urgence, en fait. Ils ne peuvent que colmater les brèches, parce que ce n'est pas maintenant que tu vas travailler et faire une préparation physique dans le sprint final de la saison. Donc, ils limitent la casse, ils essaient d'individualiser le travail au maximum avec tout le monde, en fait, pour essayer de faire souffler ceux qui ont beaucoup joué, essayer de faire un peu plus bosser ceux qui ont très peu joué, essayer de faire attention avec ceux qui ont des petits pépins à droite à gauche, comme par exemple Gueye avec son mollet, qui est embêté avec son mollet depuis la fin de la CAN. Et puis Gueye qui, en plus, lui, n'avait pas du tout joué lié à sa suspension sur toute la première partie de saison. Donc en fait, ils sont obligés de faire du cas par cas, ce qui n'est pas évident. Mais ce que j'ai envie de dire aussi sur l'état physique des joueurs, parce qu'on parle beaucoup des staffs, mais en fait, l'OM, aujourd'hui, paye la politique sportive de ses dirigeants avec autant de changements d'entraîneurs sur une saison, 3, on pourrait même dire 4, puisqu'il y a Bardonado qui a fait un intérim, avec des joueurs qui arrivent au compte-gouttes pendant tous les mercatos, avec des vestiaires qui sont chamboulés à chaque intersaison, et ça, au bout d'un moment, on le paye aussi dans les corps, quoi.
Et quel joueur aujourd'hui, enfin s'il y en a, quels joueurs sont au top de leur forme malgré tout?
Au top de leur forme, c'est difficile à dire parce que, comme le disait Baptiste, le staff est forcément attentif aux états de fatigue. Et c'est difficile d'être au top de sa forme quand tu enchaînes les matchs comme ils les ont enchaînés. En janvier, ils étaient une douzaine de joueurs de champ à l'entraînement le matin pendant la CAN. Et puis après, ça s'est enchaîné avec la Coupe d'Europe. Je pense qu'il compte beaucoup sur Mbemba parce qu'il est hyper important dans l'équipe de l'équipe et que lui, pour l'instant, il tient le coup. Aubameyang, on sait qu'il était très fatigué juste avant la trêve, qu'il est resté à Marseille, peut-être un petit peu recharger les batteries et que lui aussi, ça va être un enjeu décisif pour la fin de saison parce que c'est quand même le joueur qui fait les différences les plus nettes offensivement. Ensuite, au top de leur forme, il n'y a pas grand monde, hein, puisque Balerdi, il a les adducteurs qui sifflent, puisque Gay, comme Vertu. Disait Baptiste, il a mal au mollet, puisque Vertu, très souvent, il joue avec des douleurs, et lui, il est capable de les endurer, mais qu'il n'est pas, je pense, dans une forme, la meilleure forme de sa carrière, même s'il tient le coup. Contre Dogbia, on sait toujours qu'il est fragile et que quand il enchaîne, il faut toujours faire attention à sa récupération. Donc tout ça fait, comme le disait Baptiste, un équilibre à trouver et une santé à préserver avec une grande précaution pour tout le monde parce que là, les forces sont comptées dans les matchs qui viennent. Hein, ils vont avoir vraiment très peu de solutions à différents postes.
C'est aussi, c'est même en grande partie pour ça que Jean-Louis Gasset est obligé de s'adapter autant tactiquement aux aptitudes de ses joueurs.
Oui, c'est lié clairement à l'effectif qu'il a à disposition, aux joueurs qui sont sur pied. Et puis c'est aussi, je pense, une façon pour Gasset, parce que quand il est arrivé, il a vu que cette histoire de défense à trois, c'était devenu une espèce de sujet dans le vestiaire, de psychodrame par rapport au fait que Gattuso n'aurait pas voulu jouer à trois et était figé sur ses certitudes, etc. Donc il a envoyé très vite un message à son vestiaire, En jouant les premiers matchs à 3, mais en fait, très vite, on se rend compte qu'il est revenu à une défense plus classique à 4 et que les joueurs, maintenant s'adaptent beaucoup plus. Parfois, en cours de match, ils repassent à 3, mais ils sont quand même le plus souvent au coup d'envoi à 4 derrière et c'est plus un sujet dans le vestiaire.
Hybride, c'est le mot qui qualifie mieux la philosophie de Jean-Louis Gasset à Marseille.
Je ne sais pas si c'est sa philosophie, je pense que c'est surtout son pragmatisme parce qu'il a eu des moments pas le choix que d'inventer des postes hybrides, comme vous dites, et des systèmes hybrides. On avait vu Mbemba arrière-droit parce qu'il n'avait personne à mettre à droite ce jour-là, puisque Klaus, je crois, était suspendu et que du coup, il fallait inventer un arrière-droit qui soit fiable. Et donc, c'est Chancel Mbemba qui s'y est collé. C'est pas tant qu'il a envie d'innover et qu'il se prend pour Pep Guardiola, c'est juste qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait 11 joueurs sur le terrain et que chacun soit à peu près dans les meilleures dispositions. Et ça, il l'a toujours fait. Je pense qu'il a senti qu'il y avait un manque de confiance de certains en arrivant. Et donc, il s'est dit, il faut que je les mette pour limiter les dégâts, toujours là où ils se sentiront le mieux par rapport à leur qualité. Et c'est vrai que c'est surtout offensivement qu'on a vu ce recadrage-là avec Aubameyang qui aime partir de la gauche pour aller repiquer dans l'axe et avoir un petit peu d'espace devant lui. Et donc, il l'a mis plutôt un petit peu à gauche. Et Ndiaye qui aime bien être dans l'axe, il l'a vraiment mis dans l'axe. Et chacun avec un peu de liberté. Sarr qui colle davantage à la ligne à droite. Bon, là, il va falloir qu'il trouve autre chose aussi devant puisque Sarr n'est plus là. Mais on le sent très, très pratique, quoi, de dire on ne va pas compliquer les choses. Ils veulent jouer dans des postes qui leur correspondent. On va essayer de faire comme ça, tout en gardant effectivement la main sur la tactique, puisque cette histoire de défense à trois, finalement, c'était un faux débat et que Gasset il n'est pas tombé dans le panneau de vouloir faire des systèmes qui ne lui correspondaient pas non plus en tant qu'entraîneur.
Et alors justement, sans parler de système précisément, mais avec quelle approche vous avez trouvé les Marseillais particulièrement efficaces jusqu'à présent?
Bah, à partir du moment, comme dit Mélisande, où il a remis peut-être les gens à leur vrai poste, comme elle a dit sur Eliman Ndiaye, dans une espèce de rôle, une espèce d'avant-centre quand ils sont au pressing et plus de meneurs de jeu quand ils ont le ballon, avec Sarr complètement dans le couloir droit, etc. Mais même là, en fait, il est tributaire d'un effectif qui est bancal, en fait, qui a été construit bizarrement. Parce que, bah, pour le coup, il a un ailier droit à disposition avec Sarr dans son effectif. Mais en fait, il n'a pas d'ailier gauche. Donc, forcément, en fait, il est obligé de construire des systèmes un petit peu asymétriques, un petit peu hybrides, comme on a dit. Où on a vu des matchs où, par exemple, il n'y avait personne à gauche vraiment. Il y avait Merlin qui avait le couloir tout ouvert devant lui, Alors qu'à droite, soit on avait Klose et Sarr, soit on avait Mbemba et Sarr. Et là, il est vraiment, il est tributaire de cet effectif qui a été quand même bizarrement construit, quoi. Parce que là, on parle même plus de blessures ou quoi. C'est qu'il y a, par exemple, il n'y a pas d'ailier gauche dans cette équipe.
Bah oui, tout à fait. Non, mais je souscris tout à fait à ce que dit Baptiste, qui est brillant. L'idée au départ, c'était de faire jouer Correa à gauche, mais c'était pour le schéma de Marcelino, donc c'était pas vraiment non plus la même chose que d'être en 4-3-3 ou ce qui s'est passé davantage ensuite avec Gattuso. Et puis Correa, on l'a pas vu de la saison, il s'est fait très mal à la cheville, c'était en novembre, je crois. Et puis depuis, on ne l'a plus vu, il a toujours ses gènes à la cheville, je pense qu'il a resté un peu traumatisé par ce gros tacle et qu'il met peut-être tout ce qu'il faut pour reprendre les matchs. Mais en tout cas, effectivement, à gauche, il y a un vide. Et c'est quand même offensivement qu'il y a le plus de solutions pour les entraîneurs depuis le début de la saison à Marseille. C'est vrai qu'il y a du choix quand même offensivement, plus qu'en charnière ou derrière.
Et quelle est la meilleure formule justement devant? Est-ce qu'il faut forcément associer Aubameyang à quelqu'un d'autre?
Aubameyang, c'est bien quand il a du monde autour de lui. De toute façon, les joueurs, c'est toujours le risque de déceler l'avant-centre. Alors, c'est pas un avant-centre classique, c'est pas un pur neuf, c'est un joueur qui aime bien, on l'a dit, partir de la gauche. Et c'est là qu'il est le plus efficace. C'est un joueur qui joue aussi en équipe. Hein, il est capable de faire des passes, de se déplacer pour les autres, de travailler aussi dans ses appels pour libérer les espaces à d'autres. Donc, il faut qu'il y ait du monde autour de lui pour faire vivre tout ça. Sagacé l'avait très bien fait sur les premiers matchs. Effectivement, on va se poser la question de l'animation à droite, à la fois derrière et devant, puisque ni Klose ni Sarr ne seront là pour animer ce couloir.
Et pour revenir sur Aubameyang, une association qui, pour le coup, avait été trouvée par Gattuso avant Gasset, c'est vraiment cette connexion avec Harit. On sent que les deux, ils se comprennent bien sur le terrain, ça fonctionne bien. D'ailleurs, je crois qu'Harit a donné la plupart de ses passes décisives pour Aubameyang. Et on sent aussi que voilà, cette connexion-là, elle fonctionne. Et on voit qu'Harit, d'ailleurs, a un petit peu reculé sur le terrain et une sorte de milieu relayeur, on va dire, mais plutôt côté gauche, plutôt du côté justement d'Aubameyang, pour créer cette connexion-là. Maintenant, effectivement, le chantier que va avoir Gasset, pour prolonger ce que disait Mélisande, c'est qui il va pouvoir aligner sur la droite et quelle association il pourrait trouver, parce qu'il va falloir trouver quelque chose à faire, pas seulement pour le match de dimanche contre Paris, mais aussi pour les 2, 3 ou 4 prochains matchs.
Quel a été le meilleur match de Jean-Louis Gasset jusqu'ici ?
Bah, y a eu des démonstrations en Ligue 1 contre Montpellier, contre Clermont. Le meilleur match, je ne sais pas. C'est vrai que...
Peut-être la première mi-temps contre Villarreal ?
La première mi-temps contre Villarreal a été très bonne, même si Villarreal, ce jour-là, était vraiment une équipe fantôme.
Lors du match de la victoire 4-0 ?
Oui, dans ce match-là, c'est vrai que c'était un match à sens unique où là, les Marseillais ont tout réussi quasiment. Mais il y a eu vraiment des très bonnes séquences et il y en a eu très vite. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y avait pas besoin de grand-chose d'autre que d'un déclic psychologique, d'une prise de conscience du vestiaire, d'une responsabilisation du vestiaire face à la situation. Parce qu'à Marseille, c'est toujours facile, entre guillemets, de trouver des excuses. C'est un club où il y a beaucoup de pression, où les supporters mettent de la pression, où les dirigeants font leur mercato tous les étés, etc., et tous les hivers. Donc nous, on a tendance aussi à le dire. Et du coup, peut-être à trouver certaines excuses au vestiaire, alors que Gasset, il est arrivé en leur disant « Bon, les gars, c'est pas facile de jouer à Marseille. Il y a plein de... Vous avez sans doute des circonstances atténuantes, mais à un moment donné, vous êtes sur le terrain et vous avez le droit aussi d'être bon, de réussir vos contrôles, de réussir vos passes, de faire les bons déplacements, d'être concentré en défense. » Et c'est ça qui a changé, en vérité, parce que entre le match de Brest et le match suivant, c'était plus la même équipe déjà, alors qu'il s'était passé 4 jours, quoi. Donc, c'est pas forcément des gros travails tactiques ou de la vidéo ou des circuits de passe travaillés. C'est juste de leur dire attention, vous êtes joueur de foot professionnel, vous êtes à l'Olympique de Marseille, allez-y, quoi.
Alors, l'une des qualités de Jean-Louis Gasset, vous en avez pas mal parlé dans le journal, c'est aussi d'analyser précisément le jeu de ses adversaires, beaucoup de préparation en amont. doit être bien occupé cette semaine, forcément. On l'a dit, hein, ça va être le premier gros test pour Marseille face à Paris. Que peut espérer l'OM dimanche ? Comment est-ce que les Marseillais doivent aborder ce match ?
Le premier gros test, moi, je dirais quand même que c'était le match à Rennes. Parce que Rennes, c'est un candidat, c'est un concurrent direct. C'est ce que disait Baptiste. Ils ont pas gagné encore contre des équipes qui sont leurs concurrents directs aux top places européennes. Et que ce déplacement-là, qui arrivait après une semaine chargée, avec une équipe amoindrie, c'était déjà un test. Et ils l'ont perdu. Avec, encore une fois, des circonstances qui ont fait que c'était pas évident. Ils étaient fatigués par le voyage en Espagne, une soirée vraiment d'émotions fortes à Villarreal pour le match retour, des joueurs qui commençaient à être blessés, à être fatigués, donc il a dû faire tourner un petit peu. Mais c'était déjà un test. Là, on passe encore à un match qui est presque hors compétition. Hein. C'est comme au Festival de Cannes, vous avez ce match, voilà, il n'est pas dans le palmarès officiel. Il est toujours à part, il est très attendu, mais en même temps, c'est souvent le même scénario depuis plusieurs saisons. Et là, on se disait que Marseille, qui a invaincu cette saison à domicile encore, hein, puisque le Vélodrome, pour l'instant, est une forteresse imprenable, peut-être que l'OM allait faire un coup, parce que Paris n'était pas toujours impressionnant en Ligue 1, qui galérait contre des équipes qui étaient censées être plus petites que lui. Et on se disait peut-être Marseille pouvait faire le gros coup, mais là, vu l'état du vestiaire et les joueurs qui sont aptes, ça va être très compliqué. Là, dans les jours qui viennent, il va devoir regarder qui va un peu mieux, qui va moins bien. Est-ce que ça va tenir ? Est-ce que ça ne va pas tenir ? Ça va être au jour le jour, du minute par minute, presque pour espérer récupérer des joueurs. Donc, il va trouver, je pense, à la fin, l'équipe la plus compétitive possible. Mais Marseille n'aborde pas ce match dans les meilleures conditions.
Ouais, Baptiste, est-ce qu'il y a tout de même un domaine dans lequel Marseille peut embêter Paris ?
Bah, il y a ce côté, comme disait Mélisande, du match à domicile, du Vélodrome où les Marseillais sont invaincus et malgré tout, quand même, peut-être voilà, la confiance retrouvée d'un joueur comme Aubameyang, la connexion avec Harit, Illiman Ndiaye qui va un peu mieux. Alors oui, il n'y aura pas Sarr, mais on va dire qu'offensivement, c'est dans ce secteur-là que l'OM est le moins diminué. Donc peut-être que, voilà, avec un peu d'efficacité, avec un peu de bol, avec peu de réussite, avec des événements qui tournent un peu en sa faveur, ce qui ne ferait pas tâche vu les dernières semaines qu'ils ont vécues avec tous ces forfaits, peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Et puis avec le Vélodrome qui pousse, on se souvient de la saison dernière en Coupe de France quand ils parviennent à éliminer Paris. C'était aussi un match sur un fil, même si l'OM allait mieux, même si l'OM n'avait pas autant de pépins, mais c'était un match où l'OM a eu pas mal de réussite, a su se servir du public, a su mettre de l'intensité. Et finalement, le match a tourné en leur faveur.
C'est sûr que ça va être encore la clé, hein, comme toujours avec les classicos, les classiques, pardon. Et c'est vrai qu'on l'a vu la saison dernière avec Tudor, à la fois au Parc, hein, parce que même au Parc, ils font une bonne première période, puis au match retour en Coupe. C'est que s'ils mettent l'intensité qu'il faut dans chaque duel, sur chaque ballon, et ça, ils l'ont en général, les Marseillais contre les Parisiens, ils peuvent les gêner. S'ils n'ont pas ça, ce sera fini parce qu'il y a trop de différentiel technique entre les deux effectifs. Et que même si les joueurs de l'OM ont récupéré un peu de confiance, ça reste d'une autre catégorie que les meilleurs joueurs du PSG. Mais la qualité individuelle, elle ne fait pas tout dans un match de foot. Et s'ils arrivent vraiment à leur mordre dedans et à rentrer sur chaque duel, sur chaque ballon, comme ils l'ont fait la saison dernière avec Tudor sur certains matchs, ils vont forcément les gêner. Après, ça va être de ne pas perdre une seule fois de la concentration parce que sur n'importe quel ballon en profondeur, ils peuvent se faire punir. Ça va être de bien utiliser les ballons qu'ils auront, eux, à négocier dans le camp adverse, d'aller vite parce que les Parisiens, on sait qu'ils ne sont pas non plus hyper à l'aise quand il faut qu'ils gèrent la profondeur. Quoi. Donc oui, il y a toujours des motifs d'espoir, mais c'est sûr que la cote, elle n'est pas hyper élevée ce matin, mais elle l'est rarement sur un match, depuis quasiment 10 ans, sur un PSG-OM, elle est rarement en faveur de l'OM. Mais il y a toujours possibilité d'un choc inoubliable, et en tout cas d'une vraie rivalité.
C'est ce qu'on se souhaite à tous. Pour terminer, l'OM est à 7 points du podium, 4 points de la 4e place, qui les enverrait en barrage de la Ligue des Champions. Baptiste, quel peut être l'objectif de l'OM pour cette fin de saison, ou d'ailleurs, est-ce qu'il y a un objectif officiellement affiché par le club?
Les dirigeants ont toujours dit qu'ils visaient les quatre premières places, puisque maintenant elles sont qualificatives en Ligue des Champions. Moi, je pense que le problème de l'OM aujourd'hui, c'est pas tant le nombre de points de retard qu'ils ont sur le podium, c'est le nombre d'équipes intercalées entre eux et le podium. Et toutes ces équipes, ils vont les jouer. Et encore une fois, ils n'ont jamais réussi à battre un concurrent direct cette saison. Vu l'état de l'effectif, vu l'identité des absents aussi, qui ne sont, sont pas des seconds couteaux de l'effectif, moi, je suis assez pessimiste quand même pour la fin de saison de l'OM en championnat. Et je mise plutôt sur un parcours en Ligue Europa avec, pourquoi pas, la possibilité de jouer Liverpool avec la tournée d'adieu de Klopp. Ce serait formidable en demi-finale.
Oui, ce serait formidable, effectivement. Donc, Baptiste est optimiste sur le match contre Benfica. Il faut l'être parce que c'est pas un tirage impossible. Et que là, ce serait une belle histoire pour ponctuer cette saison longue et compliquée d'offrir aux supporters de l'OM une double confrontation contre Liverpool, qui, elle aussi, serait pas évidente. On a parlé du PSG, oui. Là, bon, ce serait pas forcément une tasse de thé non plus, surtout sur deux matchs, où là, sur deux matchs, c'est encore plus compliqué. Mais on a le droit de rêver, puisque après une saison pareille, où il n'y a pas grand-chose qui a tourné dans le bon sens, peut-être que les supporters de l'OM se disent « et si,
Marseille battait le PSG dimanche 31 mars au Vélodrome. On a hâte d'y être. Merci beaucoup Mélisande Gomez et Baptiste Chaumier. Merci aussi à Léa Léostic pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, je laisserai les commandes de Big Five à mon collègue Baptiste Binet. Je vous retrouve dans 15 jours. Prenez soin de vous.